milhões de vidas para somar. A grande história escrita ao virar da esquina, Vietnã, Kurdistão, Filipinas, Angola e Palestina. Para bem contar, preciso é ter coragem e deitar contas que falam. As contas contarão, e a conta continua a seguir a tua fome, cárcere, pilhagem. Ser paciente, se do império os mortos vais contar, será saber recomeçar, que os mortos do império vão voltar. São mortos distantes, em tudo semelhantes a esses outros mortos que estão. Almas cativas, almas perdidas, os vivos são o regresso dos mortos.
Bonsoir, c'est Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4 et DAB+, quand ça marche. Votre rendez-vous avec le jazz, en sachant que ce jeudi, c'est la dernière émission de l'année. Nous allons y revenir dans un instant. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Alors, comme d'habitude, nous avons besoin de votre soutien, c'est-à-dire que vous allez sur la page de Radio Libertaire, radiolibertaire.net, je crois, .org, je ne sais plus, enfin bon, vous y allez sur la page, vous téléchargez la souscription, vous donnez ce que vous pouvez, mais nous avons besoin quand même de votre soutien pour renouveler le matériel, maintenir tout ce qui fait que la radio peut vraiment fonctionner comme il faut. Vous avez également, vous pouvez consulter l'agenda avec lequel excusez-moi, je fais quelques soucis techniques. L'agenda sur lequel l'ensemble des émissions sont mentionnées. Ensuite, vous avez le podcast disponible à la fin de la diffusion des émissions pendant 12 mois. Vous pouvez également les télécharger. Si vous avez besoin d'informations, n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr. Alors ce soir, donc Yves en direct des studios et mon camarade, copain, poteau avec qui je fais de la musique depuis longtemps, qui vient m'assister pour la technique. Bienvenue à Franck pour cette fin d'année et pour cette aventure de Jazz Libre qui est là depuis maintenant bientôt 15 ans. Il faut le dire, c'est une sacrée aventure. Enfin, il y a des émissions qui sont là depuis plus de 30 ans, ou voire même 40. Donc bon, voilà, je suis un petit jeune comparé aux autres. Alors, ce soir, c'est une émission que je vais intituler Émission Impossible. Hein, donc, double jeu de mots. Pourquoi Émission Impossible ? Bon, vous allez comprendre. D'abord, première chose, c'est qu'il y a Martial Solal qui nous a quittés récemment. Et alors c'est un peu triste parce que on a fait l'émission avec l'invité Vincent Sorel sur la bande dessinée justement liée à l'autobiographie de Martial Solal. Donc on était encore content qu'il soit parmi nous. Ben, malheureusement, un peu plus d'une semaine après, c'était fini. Je sais que hors micro, il m'avait dit qu'il n'allait pas très bien. Donc bon, voilà. Donc, ce soir, émission nécro, et pas du tout spirituelle. Quoique, dans certains cas, ça pourrait l'être. Alors, pourquoi émission impossible ? Bah, c'est très simple. Parce que vous avez quatre disparus. Enfin, j'en ai quatre. Si on a le temps, je repasserai quand même un petit morceau de Martial Solal, parce que vraiment, il faudrait faire toute une année, voire plus sur lui, tellement il y a de choses à écouter et à dire. Mais alors, les autres, c'est pareil. Presque 60 ans de carrière, donc vous imaginez, 60 ans de carrière dans le jazz, c'est assez exceptionnel. Donc Lou Donaldson, pratiquement une centaine d'albums, hein, donc c'est un choix cornélien, voire quasiment impossible. Quincy Jones, alors là c'est encore pire, c'est même carrément monstrueux, parce qu'on est à plus de 250 albums. Toute musique confondue, Quincy Jones, c'est vraiment l'histoire d'une success story, comme on dit, avec pratiquement une quarantaine de musiques de films, enfin, pratiquement autant en télévision, avec des épisodes dans tous les sens. Et alors, Roy Haynes, c'est pareil, on est avec tellement, oui, voilà, pratiquement 170 albums, sans compter tout ce qu'on ne connaît pas encore et qui risque de ressortir, comme en ce moment il y a plein de choses qui ressortent, notamment chez Elemental Music avec Zeffelman, dont je vous parle toujours. Il vient de ressortir des faces de Bill Evans, encore une fois. Enfin bon, c'est on n'imaginait pas qu'il y avait autant de choses qui partaient comme ça un petit peu dans la nature. Alors, on va commencer par Lou Donaldson, saxophoniste alto, qui a été un musicien assez sous-estimé en France. C'est un musicien qui a un peu l'étiquette blues soul, mais en réalité, c'est quelqu'un qui était qui a été au départ, comme beaucoup évidemment, très influencé par Charlie Parker. Il disait d'ailleurs lui-même qu'il avait dans sa mémoire, dans son cerveau, 25 solos de Charlie Parker qu'il connaissait par cœur, c'est le cas de le dire. Alors, très très vite, il est né le 1er novembre 1926, c'est marrant parce que moi je suis né le 2, et mais pas en 1926, pas encore. Et il est mort le 9 novembre dernier, donc voilà, très grande carrière et prolifique, hein, presque une centaine d'albums. Alors, il est né à Badin, en Caroline du Nord, et il est ensuite... on a peu de choses, hein, peu d'informations. Enfin, il a fait ses études dans un lycée technique agricole à l'université de Greensboro et au tout début des années 40. Et puis ensuite, il est enrôlé dans la Navy, hein, la marine, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va s'entraîner dans une base de Great Lake à côté de Chicago. Et c'est là qu'il va rencontrer le bop, le bebop. Et qui va commencer à jouer sur des petits clubs de la scène locale. À la fin de la guerre, il va retourner à Greensboro où il va travailler dans quelques clubs avec des vétérans de la guerre, où il va faire un combo avec des étudiants de la Navy. Alors ils vont même enregistrer la musique d'un film qui va s'appeler Pitch a Boogie Woogie. À l'été 47. Alors en fait, ce film a été plutôt diffusé uniquement dans le milieu noir américain à partir de 1948 avec une diffusion très 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 faible. Mais en fait, l'Institut du film américain en 1985 a ressorti le truc et avec un nettoyage de la bande son, donc ce qui a redonné un petit peu de visibilité à la fois au film et puis à Lou Donaldson, qui se souvient qu'à l'époque, et en fait, il l'avait plutôt fait à la clarinette. Selon ses souvenirs. Alors, il va commencer à jouer avec des musiciens comme Milt Jackson, hein, le fondateur du Modern Jazz Quartet, avec Thelonious Monk, quand même, en 1952. Voilà, et puis il va travailler avec des petits groupes comme ça locaux, dont notamment le pianiste Blue Mitchell, magnifique trompettiste, le trompettiste Blue Mitchell et le pianiste Horace Silver et le batteur Art Blakey. Donc déjà dès le départ, ça commence plutôt pas mal. En 53, il va aussi enregistrer avec Clifford Brown, le magnifique trompettiste mort hélas trop tôt, et le batteur Philly Joe Jones. Il va faire partie de l'orchestre du quintet d'Art Blakey pendant pas mal de sessions. Et il va même enregistrer en 1954 au Birdland d'une session de Blue Note. D'ailleurs, il va être très très fidèle, très longtemps fidèle à la marque Blue Note, qui était vraiment représentative du jazz de cette époque et qui continue d'ailleurs toujours d'enregistrer des nouveaux talents. Voilà, alors ce qui est incroyable, c'est qu'il a joué quasiment toute sa vie. En 2018, il avait déclaré qu'il prenait sa retraite. bon, quand même. Et le 2 novembre 21, il a fait une petite apparition en public pour son 95e anniversaire dans un show au Dizzy Club à Manhattan. Et il apparaît comme ça pour son 96e et 97e anniversaire en 2022 et en 2023. Mais bon, à la fin, il a choisi de pas aller à New York pour son 98e. Et il avait une pneumonie et en fait, peu de temps après, il est mort à l'hôpital de Daytona Beach en Floride le 9 novembre. Daytona Beach qui est d'ailleurs un lieu où il y a une grande course automobile très très très, très célèbre. Alors, 83 albums, c'était vraiment très très compliqué. Il a joué il a commencé à enregistrer en 1953, donc, avec son propre groupe, et puis ensuite avec Clifford Brown, etc., etc. C'est assez difficile, d'ailleurs, dans tous les cas, pour tous ces musiciens, de faire la somme des collaborations avec, avec le, je dirais, tout le jazz moderne de cette planète de l'époque. Il a enregistré avec Jimmy Smith, il a enregistré avec Monk, avec Milt Jackson, avec Art Blakey. Donc, avec Art Blakey, il y a trois volumes, A Night in Birdland, qui date de 54. Milt Jackson, aussi quelques disques, avec Monk. Et alors là, c'est quand même vraiment important. Les deux volumes de Genius of Modern Music, quand même un gros pavé. Avec Jimmy Smith, l'organiste, il a enregistré beaucoup, beaucoup de choses. Il a enregistré également avec Jenna Mons, avec le magnifique pianiste Junior Mons, qui nous a quittés il y a peu de temps, et avec Horace Silver. Donc voilà, en gros, hein, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, je vous ai choisi de ne pas passer son tube qui s'appelle Alligator Boogaloo, parce que tout le monde le connaît. Et puis bon, maintenant avec les moyens modernes, je pense que vous avez tout à fait la possibilité d'aller sur la toile et vous renseigner, d'avoir beaucoup de choses. Mais je vous ai choisi deux extraits. Un qui s'appelle le magnifique thème Laura. Il est accompagné par le pianiste Horace Parlan. Avec Philippe Soira à la batterie et Wayne Docry à la contrebasse. Et ça a été enregistré en 2007 à Genève. Et j'ai choisi ces deux thèmes. D'abord, Laura, parce que c'est une balade et que souvent j'aime bien passer des choses énervées. Là, pour le coup, une balade, ça va un peu reposer. Et puis, on entend dans ce concert, tout le côté parkérien qui ressort en lui. Il est très aérien, très volubile, très très influencé par le blues, hein. Il a vraiment cette connotation du soul. Et alors, j'ai pas réussi à avoir la totalité du concert, que j'ai pourtant vu. Et à un moment donné, alors il a une voix très particulière, il a une voix un peu cassée, je pense qu'il a eu une maladie des cordes vocales, ce qui fait qu'il parle avec une voix très très aiguë, très nasillarde, et avec une harmonique, c'est-à-dire qu'il y a deux sons en même temps, c'est très très particulier. Et dans ce concert, à un moment donné, il joue All Blues, et j'ai pas réussi à vous le passer, c'est dommage, mais il joue All Blues, mais avant il parle... comme le faisait un peu Cannonball Adderley, de prendre un petit peu son public à partie en disant « Je vais vous jouer un truc de Miles Davis, du temps où Miles Davis faisait encore du jazz. » Voilà, c'est pour dire à quel point ce musicien était un puriste. Donc on va l'écouter dans cette version en quartet avec cette très impressionnant pianiste. Il faut quand même s'y donner un tout petit éclairage sur ce pianiste, un pianiste qui a eu la polio, et donc il a la main droite comme une sorte d'araignée très paralysée quasiment, ou très peu mobile. C'est assez impressionnant, c'est assez déroutant. Et il a une main gauche, par contre, extrêmement volubile. Il a beaucoup développé. Mais il pensait jamais arriver à jouer du piano. Mais son prof de piano l'a vraiment convaincu de continuer. Et en fait, ça s'entend pas du tout. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a transcendé son handicap avec une musicalité extrême. Il y a de très beaux disques qu'il a fait en duo avec Archie Shepp. Voilà, je vous recommande ce pianiste assez singulier. C'est parti. On va commencer par Bye Bye Blackbird, un vieux thème aussi connu, et on écoutera Laura après. C'est parti. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4, Yves au micro et Franck, notre nouveau venu à la technique, je suis très content. Derrière la réalisation technique, peu de choses à dire en fait sur Lou Donaldson, hormis son abondante discographie. Faut juste quand même noter qu'il a été décoré du Hall of Fame de Caroline du Nord et il a été en 2012 et aussi il a été nommé au NEA Jazz Master, c'est-à-dire le National Endowment for Arts, c'est une sorte de récompense artistique pour l'ensemble de son œuvre. Alors comme je vous le disais, son grand succès c'est Alligator Boogaloo Alligator, je sais plus dans quel ordre c'est. Bon, je voulais pas forcément passer. Mais en fait, il a enregistré quasiment jusqu'à pratiquement la fin de sa vie. En tout cas, il a joué vraiment jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, puisque j'ai un extrait d'un concert pour ses 90 ans, donc vous verrez comment il jouait à 90 ans. J'espère que je serai aussi vaillant que lui à cet âge-là. C'était assez impressionnant. Donc, nous allons l'écouter dans cette très belle ballade qui s'appelle Laura, qui avait été traduite en français par Laura, mais dont les paroles étaient assez désastreuses. Hein, ça commençait comme ça, Laura, doux visage à peine entrevu. Enfin bon, voilà, on sentait quand même le côté un peu ringard. Je crois d'ailleurs que c'est tiré d'un film du même nom, qui est un film assez étrange. Et voilà, donc on va écouter cette balade, toujours avec le même groupe, hein. Je vous rappelle les musiciens, il y a Horace Parlan, dont on ne soupçonne pas, quand on ne le voit pas, son handicap manuel, hein. C'est vraiment, je suis assez admiratif. Par ailleurs, Philippe Soira, qu'on connaît, puisque c'est le partenaire habituel de Jacques Vidal dans ses conférences, dans ses concerts thématiques, notamment, et pas que. Et Wendokri à la contrebasse. Wendokri, alors je l'avais vu avec un groupe, je me souviens plus, il y a fort fort longtemps, je ne sais plus s'il est toujours vivant. En tout cas, Philippe Soira l'est bel et bien. Voilà, et encore sur la vidéo que vous pourrez regarder sur YouTube si vous avez la possibilité. À l'époque, il a encore des cheveux. Voilà, c'est pour l'anecdote. S'il m'entend, qu'il me pardonne cette allusion vaseuse. C'est parti, Franck. Jazz Lib, 89.4 Radio Libertaire. Alors, bon, voilà, c'est un excellent musicien, un peu sous-estimé en France, en tout cas, même moi, mea culpa, je le connaissais évidemment depuis toujours, j'ai des disques de lui participant dans pas mal de sessions, mais voilà, il y a une sorte mésestimée, mais aussi une mauvaise interprétation. Parce que quand on entend là, évidemment, c'est très, très parkérien, il n'y a aucun doute. Mais enfin, il fait preuve d'une sensibilité, d'une virtuosité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout de facilité. Et enfin, je trouvais ça plutôt bien, plutôt. Musicien à redécouvrir, voilà. C'est un peu dommage de le redécouvrir après sa mort, mais bon, je vous le dis comme je le pense. Alors, nous allons terminer. Évidemment, je ne peux pas passer les 83 disques dans lesquels il a joué. L'extrait d'un concert pour ses 90 ans, donc c'était en 2016, en public au Dizzy. Et donc là, il est dans une formation qu'il affectionnait beaucoup. Il a joué beaucoup avec Lonnie Smith. Attention à ne pas confondre avec Lonnie Liston Smith. C'est pas pareil. Il y en a un qui était Lonnie Smith, qui était l'organiste avec son turban, vous savez, très connu. Donc, l'organe trio, c'est-à-dire batterie, guitare, orgue, parce que l'orgue, les organistes font la basse à la main gauche avec les fondamentales au pied-pied, avec le pédalier basse. Et donc là, il est avec cette formation. C'est assez marrant. Il est avec donc un guitariste que je ne connais pas, mais qui joue vraiment très bien, qui s'appelle Eric Johnson, et une organiste japonaise qui s'appelle Akiko Tsuruga. Pardonnez-moi l'accent. Et avec un batteur japonais qui s'appelle Fukushi Tainaka. Le titre s'appelle Blues Walk, et donc je vous passe vraiment la totalité de l'introduction. Comme ça, vous allez pouvoir écouter de sa voix très nasillarde, avec cette harmonique secondaire là, comme ça, qui émaille, qui est presque un côté japonais. Je vous indiquerai un jour un restaurant japonais où le patron a à peu près la même voix. C'est assez étrange. Voilà. J'ai rencontré pas mal de personnes avec cette harmonique. C'est toujours assez impressionnant. Voilà, donc, musicien prolixe, longue carrière, évidemment, donc, le gratin du jazz moderne des années 60, 70, 80, 90, 2000. Hein, voilà, une longue carrière qui permet quand même de traverser les époques tout en conservant son style et être fidèle, je dirais, à ses racines bebop. Voilà, donc c'est parti pour un thème qui s'appelle, si je ne m'abuse, Blues Walk. Voilà, c'est parti.
Him to bring him on stage for our opening number, You. Happy birthday. Let's sing it. Sweet Papa Lou. Lou Donaldson. 4 score and 10. Still smoking. Love you.
Pretty good singing. Trying this up a little bit. My voice is not as strong as it used to be. Tonight, ladies and gentlemen, straight ahead jazz will be played. Todd Barkin is right here, jazz critic. Not anymore. No fusion, no confusion. No Kenny G, no Najee, no Spiry Gyra, no Heavy D, no Snoop Doggy Dog, no 50 cents who's not worth a quarter. Straight ahead jazz, we hope you like it. Because that's all we do, straight ahead jazz. All right.
Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4 et DA+. Alors oui, tant qu'il y a de l'électricité, une fois qu'on a appuyé sur les touches, ça peut durer comme ça pendant 107 ans. Donc voilà, c'était, je vous le rappelle, pour son 90e anniversaire au Dizzy à New York. New York, Chicago, j'ai un trou. Bon, vous vérifierez. Le thème s'appelait Blues Walk. Il y avait donc l'organiste, la japonaise Akiko Tsuruga, Eric Johnson à la guitare et Fukushi Tainaka à la batterie, évidemment Lou Donaldson à l'alto. Qu'on sentait quand même 90 ans qu'il était un petit peu plus diminué, mais enfin j'aimerais encore être diminué à son âge de cette façon. Et puis bon, souffler dans un saxophone, c'est pas jouer du piano quoi. Hein. On est assis, c'est quand même plus peinard. Donc musicien à redécouvrir, je vous invite à aller redécouvrir ce musicien parce qu'il y a vraiment des très belles plages, beaucoup de choses. Alors maintenant nous allons passer à Quincy Jones. Alors bon, monstre sacré, success story absolument démentiel. Je vais essayer d'aller un petit peu à l'essentiel. Alors, il est né le 14 mars 1933 à Chicago, Illinois. Et il est mort le 3 novembre, le lendemain de mon anniversaire dernier, donc à l'âge de 91 ans, à Los Angeles, Californien. Alors, que dire de ce musicien? Je vous recommande plusieurs choses. D'abord, il y a sa biographie écrite, et puis un documentaire qui a été diffusé sur Netflix il n'y a pas longtemps, que j'ai enregistré d'ailleurs, qui est plutôt pas mal. Il y a même un moment assez impressionnant où on le voit avec une crise cardiaque en direct sur scène. Enfin, c'est terrible. Voilà, donc il a eu quelques soucis de santé, mais une très longue carrière. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, il a quand même été derrière les succès interplanétaires de Michael Jackson, hein, dont notamment Bad, etc. Alors, lors de notre dernière AG, je ne sais plus qui disait que Michael Jackson, c'était vraiment de la merde. Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que, oui, dans le sens où c'est quelque chose de populaire, mais enfin, bon, quand on écoute ce qu'on écoute à l'heure actuelle, je me dis que, franchement, avec tout ce qu'il y avait comme musicien derrière et comme production, ça, voilà, c'était quand même plutôt pas mal. Puis, Michael Jackson, il faisait partie des Jackson 5, hein, il a commencé tout petit, c'était vraiment un enfant de la balle, comme on dit. Hein. Bon, voilà. Alors, Quincy Jones, c'est vraiment impossible de faire aussi peu de choses, aussi peu de temps de pouvoir parler de lui. Il a commencé comme trompettiste et puis très très vite, d'ailleurs il explique dans sa biographie qu'il est issu d'un milieu vraiment très pauvre et il s'est aperçu d'ailleurs que dans sa famille il avait sa grand-mère je crois ou son arrière-grand-mère, je crois que sa grand-mère qui était esclave dans une plantation du Kentucky. Et en faisant des recherches avec l'ADN, vous savez que c'est quelque chose qui est très très populaire, entre guillemets, dans les pays anglo-saxons, et surtout depuis que les Mormons ont séquencé l'ensemble de l'ADN mondial humain, tout le monde fait des recherches sur ses origines. Et donc, il en est arrivé à la conclusion que qu'il avait des mêmes dans ses chromosomes des choses qui étaient liées à la famille de Tennessee Williams quand même, qu'il était aussi descendant d'immigrants français huguenots. Hein, vous savez que évidemment les protestants ont fui la France suite à la révocation de l'édit de Nantes, ce qui était une grosse connerie parce que les protestants avaient une technologie très très développée, étaient des grands techniciens. Ils sont partis en Suisse et ils ont fait les montres. Ça nous a un peu échappé, c'était idiot. Ils sont partis en Angleterre, ils ont fait un peu de la philosophie, enfin, etc., etc. Il a été aussi également qu'il avait dans son ADN des racines anglaises, françaises, italiennes et Welsh, c'est le sud de l'Angleterre, galloise je crois. Voilà, puis un petit peu aussi de l'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, avec un peu du Cameroun, et qu'il avait également trouvé qu'il y avait des ramifications avec les confédérés, et ce qu'il rendait éligible aux membres des vétérans fils de confédérés, ce qui est quand même assez hallucinant, avec aussi comme ancêtre Elizabeth Washington Lewis, qui était la sœur du président George Washington. Voilà, pour dire quand même, c'est un pédigré d'origine assez prestigieux. Et en fait... dans cette famille, il y avait dans ses descendants comme ça, des musiciens. Et il dit d'ailleurs que il a hérité sans doute du bagage musical suite à ses ancêtres. Enfin bon, voilà. Donc la famille Jones va aller à Chicago. Ça va être assez compliqué pour lui parce que sa mère va faire une crise de schizophrénie et va aller dans un hôpital psychiatrique. Donc son père va divorcer, se remarier. Enfin bon, donc il va se retrouver avec des frères et des sœurs qu'il ne connaissait pas. Donc ça va être vraiment la grosse galère. Donc je passe un petit peu vite pour vous dire que sur l'ensemble toutes ses participations musicales, il a été dans pratiquement tous les styles de musique. Donc il a commencé par le jazz, on va d'ailleurs en écouter un petit bout. Il a plus de 250 albums à son actif, avec des participations dans tous les sens. Il a commencé en 1956, et donc là nous allons écouter un extrait d'un album qui s'appelle The Birth of the Band, c'est-à-dire la naissance d'un groupe, enfin d'un grand orchestre, qui date de 1959. Il faut savoir qu'il a également été arrangeur chez Count Basie, et d'ailleurs il en a profité pour piquer les musiciens de Count Basie pour faire ce disque. Alors, il a également produit beaucoup d'albums de... Enfin, vraiment, c'est absolument incroyable tout ce qu'il a pu faire. Enfin, je veux dire, c'est reportez-vous à sa biographie, achetez son bouquin si ça vous intéresse, et ou regardez son documentaire sur sa vie qui est assez impressionnant, où on voit justement toute son évolution jusqu'à la création de son big band. Il était venu à Paris, il y a d'ailleurs une photo de ce grand orchestre à Paris où il joue à l'Alhambra, et puis ça a été une vraie galère pour lui parce qu'il pouvait pas payer ses musiciens, il pouvait pas rentrer en Amérique, il pouvait pas sortir. C'est Eddie Barclay qui lui a prêté de l'argent pour qu'il puisse débloquer des billets d'avion pour que tout le monde se barre. Enfin, c'était une débandade absolue. Donc là, ça l'a un peu traumatisé, et il a commencé à réfléchir à faire d'autres choses après. Il y a une très belle vidéo d'un concert pour la télévision en Belgique à peu près à la même époque. Alors, je vous donne quand même les musiciens qu'il a piqués à Count Basie. C'est quand même plutôt royal, hein, puisqu'il y a Clark Terry, qui a toujours été, qui était trompettiste et bugliste, qui a toujours été son pote. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Joe Newman, Ernie Royal, et donc Quincy, évidemment, à la trompette, n'importe quoi. Au trombone, Jimmy Cleveland. Alors, Jimmy Cleveland, qu'on va retrouver dans pratiquement toutes les formations, y compris les plus modernes, avec Herbie Hancock. Herbie Green, qui a joué aussi dans le grand orchestre de Gil Evans. Nous y reviendrons parce que ça a son importance. La tromboniste Melba Liston, hein, quand on dit qu'il n'y a pas de femmes dans le jazz, c'est vrai qu'à cette époque, moins, mais enfin si, quand même, il y a eu beaucoup d'orchestres de femmes pendant la guerre, comme les hommes étaient partis faire pampan. Les femmes ont pris la place, malheureusement, elles n'ont pas retrouvé en 1946, ce qui est bien dommage. Quentin Jackson, qui est aussi très très connu de la sphère des grands orchestres. Oh, saxophone, alors là, casting de rêve, Phil Woods à l'alto, Frank West au ténor, Benny Golson au ténor, quand même, pas n'importe, Zoot Sims, Saïf Siab à la flûte aussi, et au piano une autre pianiste, Patty Bone. Miltinton à la contrebasse, magnifique contrebassiste, que je vous recommande ses mémoires, non traduites, mais il était également photographe, donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes d'un point de vue historique. Et Sam Woodyard à la batterie, qui a également joué dans l'orchestre de Duke Ellington. Voilà, donc on va écouter de 1959 ce thème qui s'appelle The Birth of the Band, qui est dans vraiment complètement dans l'esprit de Count Basie. Donc voilà, ça commence comme ça, je dirais, pour la carrière de Quincy. C'est parti, Franck.